C'est parce que Radio Capuin et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Voilà, c'est parti. Comment créer et gérer une forêt artificielle? Vous savez, il est possible de transformer une savane en forêt artificielle. Le site agroforestier de Mampou, situé à 170 km de Kinshasa, au plateau de Bateke, en est un exemple. Près de 8000 hectares d'acacias ont été plantés et sont gérés par plus de 300 exploitants congolais venus de plusieurs provinces de la République. Mampou est un véritable projet de développement au profit des populations urbaines et rurales. Alors, comment créer et gérer une forêt artificielle? Officiel, chef de projet agroforesterie à la Fondation Anseidel, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Alors, pouvez-vous nous parler d'abord de la genèse de ce projet?
On en pousse une histoire qui a 25 ans aujourd'hui, qui a démarré cette initiative du ministère de l'Environnement dans les années 80, dans le souci de produire du bois énergie pour la ville de Kinshasa. Oui. Donc, c'était un projet au départ qui devait être purement forestier, plantation forestière, et qui a été soutenu déjà par la Commission européenne de l'époque, et qui a financé entièrement ce projet, et qui a été réalisé par une société étrangère, commandée par le ministère de l'Environnement. Mm-hmm. Et donc cette société a réussi à planter 8000 hectares entre 1987 et 1992, et 8000 hectares entièrement d'acacia avec quelques cactus, et pour être par la suite exploité donc pour fournir du bois énergie sous forme de charbon de bois, le fameux Makala, dont on parle tant aujourd'hui à Kinshasa. Mm-hmm. Et c'est bien sûr après l'histoire de Mampou a dévié un peu son origine, puisque aujourd'hui nous sommes dans un projet agroforestier, c'est-à-dire au lieu d'avoir été exploité par une société qui devait uniquement couper des arbres, aujourd'hui une population a été implantée, comme vous l'avez dit en début d'émission, et cette population est responsabilisée aujourd'hui sur l'exploitation des arbres pour faire du macala, mais sur une seconde production, la production agricole, qui aujourd'hui fait la fierté des familles de Mampou, puisque même grâce à l'acacia, on a une fertilité du sol retrouvée, qui n'existe pas en savane, qui permet des rendements en produits vivriers très importants.
On y revient tout à l'heure, nous allons donner la parole à M. Frédéric Djengo Bosilou. Il est le directeur de la gestion forestière au ministère de l'Environnement. Alors, M. Djengo, dites-nous pourquoi le gouvernement congolais voulait créer une forêt artificielle dans la périphérie de Kinshasa?
Merci beaucoup. Je pense que vous le savez que la population en RDC manque le bois et le charbon de bois. Plus de 80% de la population est en cuisson des aliments. Et qu'il y avait une forte concentration de population à Kinshasa. Et les besoins en charbon de bois est très énorme. Et c'est ainsi qu'on a pensé à avoir quand même un massif forestier autour de Kinshasa. Déjà vers les années 70-80, on avait essayé d'expérimenter quelques essences exotiques à croissance rapide. Au centre Kingdom, avec la coopération belge. Et c'est au niveau de ce centre qu'on a expérimenté une vingtaine d'essences exotiques et qu'on a trouvé que la CACA donnait de très bons résultats. C'est ainsi que le ministère a cherché à avoir quand même une superficie autour de Kinshasa sur cette bâtisse, une centaine de. À plus de 100 000 hectares. Oui. Et il y a l'Union européenne qui voulait financer ce projet Mampou. Et le ministère a fait des appels d'offres sur la société hollandaise HPA qui avait gagné le marché.
L'objectif premier, c'est d'obtenir de ravitailler Kinshasa, le centre-ville en Makala.
Tout à fait. Le premier, c'était rester la ville de Kinshasa à charbon de bois. Mm-hmm. Et aussi, vers les années 85, on a vu qu'on ne pouvait pas produire seulement du charbon de bois, mais aussi ça pouvait nous aider à avoir des cultures ouvrières essentiellement du maïs et du manioc.
Bien, vous avez des questions, des préoccupations dans la salle, vous pouvez poser vos questions. Nous, Nongo Yéla et Tati Mapoukou sont là pour vous donner la parole. Monsieur Franck Bisson, dites-nous pourquoi le choix de l'acacia pour ce centre agroforestier?
Comme a expliqué le directeur Djengo, c'est une histoire qui remonte avant Mampou, à Kinzono, par le centre forestier de Kinzono, qui était un centre de recherche, qui a fait intervenir beaucoup de chercheurs, dont pendant 10 ans testé différentes essences à croissance rapide pour, dans le but de production lumineuse. Et si l'acacia a été choisie, c'est justement par effectivement sa vitesse de croissance, mais également sa densité du bois qui permet de donner un très bon rendement en charbon de bois à la carbonisation. Et aussi, bon, l'acacia est très bien adapté ici au climat et au sol, bien qu'il soit d'origine océanienne. Aujourd'hui, l'acacia fait partie du paysage un peu de tout le monde autour de Kinshasa.
Alors, parlez-nous du processus de plantation. Comment est-ce qu'on arrive à planter l'acacia?
Bon, pour planter l'acacia au départ dans une savane, il faut partir d'une pépinière, donc il faut de l'eau pour arroser, c'est le premier problème. Et il faut élever ses plantules à partir de graines qui sont semées, et après 100 jours d'entretien régulier, hein, un travail quotidien et d'arrosage quotidien, avant d'être planté en début de saison de pluie. Alors, ces techniques qui ont été développées par la société HVA et aussi par nous, par les programmes de l'Union Européenne pour agrandir la production de Mampou, sont des techniques semi-industrielles, hein, qui demandent un investissement, une mécanisation. Mais aujourd'hui, grâce à ces techniques développées à Mampou, nous sommes dans des phases de vulgarisation chez les paysans, en zone rurale, pour qu'eux-mêmes s'approprient ces technologies assez simples, qui peuvent récolter eux-mêmes des semences. Nous appuyons en sachet de polyéthylène pour manier cette pépinière. Et aujourd'hui, au plateau Bateke et ailleurs, dans le Bas Ndungu et dans le Bas Congo, avec différents projets soutenus par l'Union Européenne, nous vulgarisons cette technique de reboisement des zones de savane.
Alors, comment se fait la régénérescence de l'acacia?
Alors, justement, c'est Mampou qui a permis d'encourager cette multiplication de l'agroforesterie par acacia, parce qu'au départ, l'acacia, il était prévu de le réimplanter après exploitation en passant par les pépinières dont j'ai parlé, qui demandent du transport, qui demandent des moyens.
Oui.
Et à Mampou, on s'est aperçu, avec les fermiers implantés, on peut même dire que ce sont les fermiers de Mampou aujourd'hui qui sont les précurseurs de cette méthodologie qui nous permet d'évoluer.
Et ces fermiers sont venus de partout, à travers
les zones. Ils sont venus de partout, ils sont venus avec leurs habitudes culturelles. Mais en fait, l'agriculture au bruit, qui est parfois est mal vue dans les systèmes agronomiques, ici c'est celle qui permet de régénérer les acacias par régénérescence naturelle assistée. Et les graines qui sont tombées des arbres abattus, qui sont présentes dans le sol, si on passe un léger bruit en début de saison de pluie, la dormance de ces graines est levée et la population d'acacia peut se reconstituer d'elle-même. C'est un peu ça le miracle qu'on a découvert à Mampou.
Mais il y a un danger transition. Vous savez, l'agriculture sous bruit, il y a risque d'incendie. Est-ce que vous avez mesuré tous ces risques-là?
C'est tous ces travaux d'accompagnement que nous avons fait pendant les projets de l'Union Européenne. C'est-à-dire enseigner, étudier et mettre au point cette technologie avec les fermiers de Mampou. Et nous avons découvert que si ce bruit est fait en début de saison de pluie, quand le sol a une certaine humidité, il n'y a pas de crainte de détruire la matière organique qui couvre le sol, et encore moins de crainte de brûler la forêt.
Alors, quels sont les autres avantages de l'acacia? On a appris que c'est un arbre mellifère qui permet la production du miel.
Effectivement, Mampou produit plus de 5 tonnes de miel par an. C'est aussi un des résultats des projets.
Grâce à
l'acacia, et nous avons du miel ici à Mampou. Les familles de Mampou produisent du miel qui est à plus de 80% d'acacia pur, qui est unique au monde. Souvent, on vend du miel d'acacia qui n'est pas du miel d'acacia, qui sont du miel de robinier en Europe, par exemple. Mais je voudrais quand même dire que le premier avantage pour nous, aujourd'hui agriculteurs, de l'acacia, c'est son effet fertilisant sur le sol. C'est une légumineuse qui fixe l'azote atmosphérique et qui le redistribue au sol. L'azote est une composante importante pour la fertilité du sol. Et également, la transformation du bois en charbon de bois sur place, sur les parcelles qui vont être exploitées, est aussi un fertilisant en potasse.
Donc, alors, nous allons revenir tout à l'heure, le temps d'accorder la parole au public. Non, non, non.
Oui,
je m'appelle Michel Sigo, je suis fermier et agriculteur ici à Mampou. Ma question est de savoir, justement, comme nous sommes devant les représentants du ministère et la société de l'Union Européenne, nous sommes des forestiers, non seulement des forestiers qui font l'agriculture, mais nous faisons aussi le reboisement. C'est pour cette raison, nous pensons que les reboisements que nous faisons, ça séquestre beaucoup de charbon et de gaz carboniques. Nous constatons que nous, sur le plan national, même sur le plan mandat, on n'est pas reconnu que nous sommes en train de faire ces raisonnements. Je ne sais pas s'ils sont au courant de tout ça. Nous attendons une réponse de leur part.
J'ai dit deux autres personnes.
Oui, allez-y.
Oui, bonjour. À tout ça.
Bonjour.
Oui, je m'appelle Ziki Kong, comme des communications ici à Mampo. Bon, je vais m'exprimer en lingala.
S'il vous plaît, veuillez vous tenir debout, on ne vous voit pas très bien.
Ok.
Merci.
Oh, Ngaï, mon premier type de nous. Après, Ngaï qui est le centre Mampo. En tout cas, ma faute est qui est le centre Mampo, et ça, c'est vrai, ma langue mingi. La faute est qui est le directeur de ce centre Azawa. On n'a pas la question, Ngaï, parce que, vu qu'on a la faute est qui est Awa, na kusante mampu zoma izae ki vimo ko malamu pati projita yeti izae ko konsonde di kenyo sona msula komerka vokuna tozae ki ko konsante mouna ke wii ezo vipe nye lo oye toza na 2012 vreman en tout ka toye bike direter azo sala enfor nini pou bike tozo nge la toze kontine na vivo toza la ki nan wopas ke vreman tozo mouna tozo ye bape e sika to utite tozo ke le toate.
Et ça, mais autour de la navette. Voilà.
Oui,
la dernière question de nous,
oui. Oui, Napoli, directeur.
Directeur France,
France, oui.
Merci.
Oui, Nai, Nazako, comme on a dit, Moraka, son Benjamin. Nai, Nazako, fermier, c'est un ami Awa et c'est un fermier. Il faut dire que ça va non bénéficiaire, que tous les métiers sont.
Alors, il y a un fermier qui est un coopérant.
Il y a un coopérant. Donc, la préoccupation de l'Ezaboué, est-ce que Bissot va coopérant un jour, M. Franck, au Rokik, au Kalisafé, Bissot, au Kofé, c'est Bissot, va fermer, Moussou, au Rokik, au Rokik, au Rokik, va fermer, donc, la va coopérant pour toujours.
Voilà, on précise que les coopérants sont ces personnes venues d'ailleurs pour assister les fermiers dans l'abattage de bois. Monsieur Franck, vous allez répondre à toutes ces préoccupations.
Nayoki Bino, mais l'édite à Bino, qui n'a jamais condité, hein. Ma belle est là pour l'engagé, ma belle est là pour la bâtie à ministère, hein. Ma chef, il y a
un peu de temps. Pour répondre tout à l'heure.
Donc, je voudrais dire simplement que nous comprenons votre préoccupation. C'est un aspect social où tout le monde pourrait effectivement se développer sur ces savanes. Je pense que c'est un choix politique qui doit être engagé au niveau national. Et justement, Mampou est une démonstration de la faisabilité. Mampou, nous avons démontré ensemble que sur des savanes, on peut implanter des populations à long terme qui vivent mieux que la moyenne. Donc l'exemple est là. Vous êtes les acteurs de cet exemple. Vous avez posé la question, mais ce n'est pas à moi, je suis un acteur aussi, je suis avec vous. La Fondation Insider vous a accompagné.
Alors, il y a bien M. Djengo, qui représente le gouvernement congolais, de répondre à vos préoccupations. M. Djengo, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je pense que, comme on a posé la question à Lingala, je décide de répondre à Lingala pour une compréhension de tous.
Allez-y.
Nathansi, que maintenant, on a bien les amis, madame, surtout à Naoui Italie. À venir à Mampou, Ndenge Botunaki, qui est comme M. Franck Azalagi Awa, M. Zahi Otambo la Malamu, Sikoyo, Bomani Ke, Zahi Otambo Asusu Malamu Te, et puis Ndenge Moussou Satunaki, que Ndenge Nini, Bangope Bakoui Kozoa, la plantation de Ko Koperan. Maintenant, quand même, c'est ce qui va te dire que est loco. Pour n'en pas Bakslaye et loco Moussou, il faut aller à Kisaki, ou Bakslaki du Bosso, Azali pour gérer en gros ma lame. Je vais continuer, M. Franck, à le dire. Oh, Azali, exemple, à l'Igosso, la RDC, Oyo, ministère de l'Environnement, a vu de suivre l'Union européenne, et, bah, ça lui montre qu'il y a un petit yango, batiki, et qui ta yango, et pas na banaya, école. Et c'est une idée, dit ce que, tant que nous, c'est ce qui m'a dit, à Koli, à Botani, à Koli, à qui va parler, il y a mon copé à l'obtenir comme il en charge. Je vais essayer la discuter et bah, été, bah, mais ce franc à côté à libérer la libération. Et moi, bah, laissant autre vie, bah, n'est-ce pas autre vie, tant que bah, la vie à essayer la discuter au sein de la yango. Ce qui fait yango malamu, n'a pas dit que, il n'y a pas de problème à vous en aller sengo. Ministère de vous en aller sengo, que, bah, continuer le souci, qu'on bah, qui ça, bah, parcelle moussou. Donc, quand on a dit, on a dit, ministère de l'environnement a jali à on a plus de 100 000 hectares.
Si on prend la conférence, est-ce que vous faites ça dans Baïkar, on a bango pour qu'il va exploiter à Katia.
Et là, on a d'abord les alibouïs. C'est ce qui, exemple, je vais dire à mon madame, le ministère est à l'Union européenne. Et à ma partenaire, mon souci, qui a eu la postérité, ce qu'on a à Ouattan, à 100 000 hectares. N'est-ce que ça m'a mis sur mon souci? Et là, on a pas brasé, dans l'endroit où on a brasé, on a pas pu brasé les Israéliens. Tout va dire à mon madame, ce qu'on nous qualifie, c'est que, bah, projet, mon souci, c'est là. D'ailleurs, Nicolo est déjà dans le ministère de l'Environnement. Vous avez un projet Moko, vous avez financé la Banque africaine de développement. Mais on est déjà plus dans le retraité ou l'environnement. Et Nicolo n'a pas fait l'état de M. A en Afrique de la société.
Bien,
on a fait ça. Bah, les traités et à monsieur de l'environnement.
Voilà.
Et à monsieur de
l'environnement. Et à monsieur de nous allons revenir des questions de préoccupation dans la foule. Voilà, Tati est là et Mounou sont là pour vous accorder la parole. Nous allons accorder la parole tout à l'heure à notre, à monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne par rapport à ce projet Mampou.
Votre radio vous propose cet après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, les cocktails de l'après-midi sur Radio Okapi.
Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Nous parlons de ce projet agroforestier. Voilà, je me tourne à présent vers monsieur l'ambassadeur. Voilà, monsieur l'ambassadeur, voilà, de l'Union européenne, monsieur France, pardon, monsieur Jean-Michel Dumont. Alors, dites-nous, quelles sont vos impressions par rapport à ce projet agroforestier de Mampou?
Bonjour aux auditeurs de Radio Obi, bonjour à tous les habitants de Mampou. C'est-à-dire que c'est une impression très favorable à tous les points de vue. D'abord, évidemment, au point de vue de la protection de l'environnement. Quelqu'un a dit, est-ce que nous sommes conscients de ce que ça représente? Je dirais parfaitement. Cela représente effectivement la séquestration de 113 000 tonnes de CO2. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais au-delà de ça, ce qui nous paraît intéressant, c'est la viabilité économique et encore plus la pérennité. C'est que ce projet soit viable sur la durée. Depuis 2009, il n'y a plus d'aide de l'Union européenne, il n'y a plus de direction et le projet continue. Alors,
c'est une expérience qui vaut le coup.
Justement, il faut qu'elle réussisse pour montrer qu'elle est viable et qu'elle peut être répliquée sans difficulté dans d'autres régions de la République démocratique du Congo. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait eu une certaine détérioration depuis 2009. Il faut absolument que le cours soit redressé pour montrer que c'est un projet qui est économiquement viable, qui peut se développer seul avec ses habitants et que ça peut être donc reproduit dans d'autres régions de la RDC.
Bien, des questions, des préoccupations, vous avez la parole. Loulou, y a-t-il des questions de l'autre côté?
Il y a beaucoup de questions, je dis, il y a beaucoup de questions, il n'y a pas que des fermiers, il y a aussi des femmes, des fermiers qui sont là.
Hein. Voilà, il y a des dames.
Des questions.
Allez-y. Voilà, merci maman. Donc elle a une préoccupation par rapport à la fourniture. Non, vous savez, Mampou, il n'y a pas seulement la production du macala, il y a aussi la production du millet, on a le manioc, le maïs, le miel également. Voilà, une autre question, Mounou?
Oui, monsieur.
Oui, je m'appelle Tanda Lacrolin.
je suis celui à mon point ici. Ma question s'adresse précisément au représentant du ministère de l'Agriculture. Elle est la suivante. Nous voulons savoir et connaître la préoccupation ou la vision du ministère de l'Environnement à ce qui concerne la pérennisation de la forêt de
Merci pour cette question. Oui, Tati.
Je lui donne le micro, il va poser sa question directement aux invités.
Oui.
Présentez-vous. Merci. Je m'appelle monsieur Madame Gaudazi.
Oui, monsieur Madame.
Je suis ici à Manteau. Et je veux me souvenir de Nala. Le tournant de Ngaï est venu prendre avantage de ma prison, ce que j'ai là, on va le faire là. Et. Elle dit surtout la boyer. Les amis, elle a venu fermier à Wa Mampo. Depuis 15 ans. Elle est venue Colonna, Bakazia, toujours jusqu'à Bakazia, pour que seul à gauche pour les autres questions va produire, et bien ce qu'on produit va produire sur rivière. Alors, tes amis, vraiment, pour produire des chacun, elle est venue pour vivre pour la mission. Mais jusqu'à les longues, on a vu que tout le monde a représenté dans cette belle ou la tricale du soir. Le tricale est allé organiser dans les femmes. Alors, il a dit que c'est d'abord une opinion sur les télévisions internationales, parce que ce soir, oui, en fait, il y a les femmes. Mais, et là, comment faut-il les alliés, là, non, indépendamment de la vie sautée, pour la petite frontière. Après sa mission, la petite frontière, la mission, pour tout le monde.
Merci beaucoup pour la moutouna Nayo. Nous allons donner la parole à monsieur l'ambassadeur. Vous avez suivi la question de madame Catherine. Elle dit qu'il y a un problème d'eau, elles n'ont pas assez d'eau pour le ruissage du manioc. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces dames?
Peut-être que ce qui est important, c'est que le projet soit viable et qu'il puisse montrer qu'il est viable. Et donc, l'assistance a été arrêtée en 2009, c'est justement pour montrer cela et pour faire en sorte que ce soit réplicable dans d'autres régions.
Voilà, mais il y a un problème qui demeure, un problème d'approvisionnement en eau.
Ça, c'est pas mis de régler.
Voilà. Bien, une deuxième question a été adressée à M. Frédéric Dengo du ministère de l'Environnement. Quelle est votre vision, la vision du ministère? Est-ce que vous comptez pérenniser ce projet? C'est la question de l'auditeur.
Ok, merci beaucoup. Je vais d'abord parler en français, puis je vais être très
rapidement.
Je voudrais vous dire que l'Union européenne, la Fondation Solidaire, sont des partenaires du ministère de l'Environnement. Et si on est arrivé à ce dont on est arrivé aujourd'hui, il y a cette collaboration qui voudrait que les familles se prennent en charge. Et c'est une première expérience que nous tentons. Pour nous, je trouve qu'il n'y a pas eu vraiment assez d'appui du ministère.
Et pourquoi le ministère n'a pas tellement appuyé le projet?
Non, mais comme vous le savez, au niveau du gouvernement, on n'accorde pas beaucoup. Il y a le budget en ce qui concerne le reboisement et tout autre domaine lié à l'environnement, on n'accorde pas beaucoup de fonds par rapport à ça.
Et pourquoi?
C'est la politique, c'est une question de volonté politique.
C'est une question de volonté politique. Oui, il y a aussi Mme Catherine qui a posé un problème par rapport à l'approvisionnement en eau. Ils ont besoin d'eau pour le ruissage du manioc. Est-ce que le ministère de l'Environnement ne peut pas faire quelque chose pour ces agriculteurs?
Bon, et je pense que nous sommes en train de réfléchir. Il y a eu une prévention de travail avec les représentants et avec M. Franck qui a été longtemps ici. Ils sont en train de réfléchir. Nous allons tout à fait que le nouveau ministre arrive ici et qu'on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Mais comme je l'ai dit tantôt, il faudrait quand même arriver à maximiser tout ce dont nous disposons maintenant. Et essayer aussi, là où l'Union européenne s'est arrêtée, le ministère peut continuer, et nous-mêmes aussi, pour avoir de l'imagination, pour voir comment on peut recueillir l'eau, comment on peut le conserver. Ouais. Mais nous devons aussi dire que quand on demande, par exemple, aux gens qu'il faut, il faudra contribuer pour essayer d'arranger la motopompe et tout cela, des gens qui bougent. Je voudrais terminer pour
dire. Il y a des gens qui ne veulent pas contribuer.
Ouais. Je voudrais vous dire que la politique est menée par l'Union européenne, ici, la Fondation CDR, c'est une politique voulue par le ministère de
l'Intérieur. Bon, on va y revenir tout à l'heure, on va pas m'accorder la parole à M. Franck Lucio. Vous avez suivi, il y a une question d'un fermier par rapport au titre foncier. Ils n'ont pas des documents. Qu'est-ce que vous voulez leur dire?
Les documents existent. C'était un long travail, hein, de longue haleine, pour obtenir de façon individuelle un titre foncier à chaque exploitant. Les derniers sont en train de sortir aux affaires foncières. Alors la question est-ce qu'il faut remettre ça individuellement à chaque fermier? Est-ce qu'il faut remettre ça en globalité à l'association qui représente les fermiers? Nous devons aussi en discuter avec le ministère de l'Environnement.
Monsieur Franck, on a appris qu'il y a eu des documents, mais qui ont été volés.
Oui, il y a certains documents qui ont été effectivement volés. C'est un mauvais passage de cette histoire, mais c'est pas l'entièreté. Et puis, la société de gardiennage qui garde les bureaux de la Fondation Einsiedel à Kinshasa s'est engagée à renouveler les titres, hein, puisque les titres avaient déjà été émis, donc le duplicata existe au niveau des affaires foncières, mais il ne s'agit pas de l'entièreté des titres. Et la sécurisation foncière a été faite pour le domaine de Montpou par un arrêté ministériel, et chaque titre a déjà son numéro, hein, et avec le nom du fermier qui est exploitant.
Donc, on fait des patients, ils auront certainement tous les documents. Peut-être une question, Nounou, avant...
Je m'appelle Moni, le docteur Nathalie, confirma à la Montpou, et il a pas été un ambassadeur pour la Macambitali, Forêt, et le Naturel. Ma formation est donc à Awa, qui est une division de l'Union des États pour la contre le changement planétaire, ma campagne de planétaire. Ils sont des amis qui aiment bien la fermer, qui aiment la campagne de l'État en mobile. Quand la vie sera déjà exploitée, parfois, déjà pour faire un peu de l'eau dans l'été. Mais oui, nous sommes là, 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 nous sommes là,
alors, monsieur Moni, oui, souci dans les années, va faire sa vie, notre va ferme.
Bon, bah,
voilà, la question est adressée à monsieur l'ambassadeur. Il veut demander de savoir quels sont les bénéfices que les exploitants peuvent tirer aussi de cette exploitation forestière.
Les bénéfices qu'ils retirent, c'est de pouvoir vendre leur charbon de bois et d'en vivre.
Ils sont pas d'accord avec moi.
Allez-y. C'est quand même ça qui est l'essentiel. Ouais. Bon.
Ils sollicitent peut-être un appui de la part de l'Union européenne.
Attendez, il y a à l'heure actuelle un sommet qui est à Rio, et il y a une discussion qui est en cours à laquelle la délégation de la République démocratique du Congo participe, et c'est à elle de nous dire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite et à quoi elle souhaite aboutir.
Voilà. Bien, M. Franck, quelque chose à ajouter par rapport à ça.
Je veux juste préciser par rapport aux paroles de M. l'ambassadeur, c'est que Montpou n'est pas éligible dans le cadre des accords de Kyoto parce que Montpou a été planté avant 1997, je crois. Donc tout ce qui est avant cette date n'est pas éligible. Je veux quand même aussi mettre en avant que les familles de Montpou, bien que précurseurs d'une nouvelle technologie que nous diffusons ailleurs aujourd'hui, ces fermiers n'ont pas planté les arbres. Les familles de Montpou sont arrivées ici, ils ont trouvé un investissement de 25 hectares, investissement du ministère de l'Environnement et de l'Union Européenne. C'est la Fondation Einsiedel qui vous a invité à vous implanter ici comme fermier, alors qu'ailleurs, la Fondation Einsiedel continue à développer cette agroforesterie, mais dans des zones de savane pure, où les populations impliquées commencent elles-mêmes à labourer des sols de savane et à planter des acacias. Donc vous avez quand même des bénéfices. Il faut quand même aussi remercier, vous avez le bailleur qui est là, le ministère aujourd'hui. Je pense qu'il faut...
Les coopérants n'ont pas des fermes. Ils sont là pour l'abattage, et puis ils sont pris en charge par les fermiers. Ils veulent eux-mêmes aussi avoir quelques bénéfices.
Il y a des programmes d'agroforesterie villageoise qui sont soutenus par l'Union Européenne, que nous développons, nous, qu'on a besoin d'Einsiedel. Le problème est souvent un problème de foncier, l'attribution des terres. Le problème de foncier, on en parlait tout à l'heure, c'est un problème qui est plus large.
Voilà. Monsieur Djengo, qu'est-ce que vous pouvez dire à Monsieur Boni par rapport à cette préoccupation?
Je veux seulement dire à Boni que, quand je l'ai dit tantôt, les projets Mampo, Dima, de Tapakel, il y avait un nombre d'hectares qui était prévu. Donc, on a parlé de 1000 hectares. C'est un projet qui était financé pour cette superficie-là et qui existe et qu'on a installé de son investissement-là. Et je disais que vous avez vu qu'après le départ de la première équipe, elle n'était pas vraiment arrivée à 1000 hectares. On les a complétés. Et quand on les a complétés, ceux qui étaient présents, qui avaient sollicité, ont bénéficié de fermes. Et je disais que si l'exemple de Mampo, vous êtes déjà là, vous faites un effort pour donner de bons résultats. Nous disposons de plus de 5000 hectares ici au plateau de Bakéké et nous avons qu'il y aura d'autres partenaires qui vont venir pour continuer le projet. Et ceux qui sont là et qui maîtrisent très bien la technique seront, vont bénéficier de passer, on ne sait jamais. Bon, si on veut revenir sur. Je crois que M. Franck a bien répondu en ce qui concerne le crédit carbone. Donc, ce sont des gens qui se décident eux-mêmes de faire des champs, de labourer, de planter. Vous avez vu l'exemple de M. qui est à côté ici, qui travaille aujourd'hui à Milabo. Ce sont des efforts qu'il a fournis et maintenant, c'est à peine qu'il va commencer à avoir le prix de son travail. Donc, c'est voilà, un travail de longue haleine, il faut s'investir.
Bien.
Yeah.